Vous écoutez
RMC. RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Karine Galli.
22h45, vous êtes sur RMC, on est ensemble jusqu'à minuit dans l'afterfoot avec Kevin Diaz, avec Maxime Chano, avec Fabrice Hawkins. Il y a, vous le savez, des matchs pour préparer à ce Mondial 2026 qui commence lundi. Le Maroc est opposé à la Norvège. Camille Borin, les Norvégiens ont égalisé.
Oui, ils ont égalisé à la 75e minute de jeu. But du capitaine Martin Ødegaard sur une passe d'Oscar Bob. Ça va leur faire du bien parce qu'on avait vu des Norvégiens très prometteurs face à la Suède pour leur premier match de prépa. Les Norvégiens, ils avaient gagné 3-1, mais là ils étaient plutôt méconnaissables ce soir, ils étaient très frustrés, très nerveux. Donc là, on espère que cette égalisation va leur permettre de se relancer. Pour l'instant, il y a donc un partout entre le Maroc et la Norvège, et on est à la 76e minute de jeu.
Merci beaucoup, on rappelle la Norvège évidemment adversaire des Bleus dans le groupe pour la Coupe du Monde, et on fera un point sur le Maroc, demi-finaliste de la dernière compétition à 23h. On va prendre la direction de Tijuana, nous sommes au Mexique avec Nicolas Pelletier, notre envoyé spécial. Bonsoir Nico.
Salut les amis, salut à tous.
Nico.
Nico, raconte-nous tout. Donc tu es à Tijuana, c'est une ville qui se trouve au nord-ouest du Mexique. Pourquoi ? Parce que l'Iran donc a dû faire son camp de base au Mexique, alors qu'à la base ils auraient voulu être aux États-Unis, mais évidemment vu la situation politique, ça n'a pas été possible. Donc l'Iran a été contraint de déplacer son camp de base.
Oui, on a atterri hier du côté de Los Angeles, puis on a pris la voiture et on est descendu au poste frontière entre San Diego et Tijuana pour passer cette frontière entre les États-Unis et le Mexique. Et on s'est donc retrouvé ici au Mexique, lieu de vie de l'équipe iranienne pendant les trois prochaines semaines au minimum pour cette Coupe du Monde 2026. Donc voilà, l'Iran qui est arrivé il y a quelques heures, ce matin, il est, pour tout vous dire, il est 13h47 ici en heure locale, l'Iran qui est arrivé ce matin. Ils sont actuellement en train de dormir, et donc l'Iran qui a installé son camp de base ici à Tijuana avec un centre d'entraînement à quelques mètres de l'hôtel qui leur est réservé au stade Caliente de Tijuana. C'est le club d'habitude qui l'occupe, le club local qui l'occupe d'habitude. Et donc on est ici à Tijuana sous un soleil magnifique et sous un très gros dispositif de sécurité. Le quartier est complètement bouclé pour surveiller cette équipe iranienne qui est donc basée ici et qui va à chaque fois devoir aller aux États-Unis pour jouer ses matchs. Deux matchs à Los Angeles et un match du côté de Seattle.
Alors comment ça va se passer justement? Parce qu'on a entendu beaucoup de choses. On disait qu'ils ne pourraient pas rester aux États-Unis. Donc est-ce que ça veut dire qu'ils seront sur place le jour du match, ou est-ce qu'ils pourront venir aux États-Unis à J-1 comme ça se fait très souvent?
Voilà, la FIFA en temps normal convoque les équipes à J-1, J-2 dans certains cas, pour surtout répondre aux rendez-vous médiatiques. Ces dernières heures, il y a eu un son de cloche qui est apparu du côté du gouvernement américain, qui a laissé fuiter que l'Iran ne pourrait pas se rendre à J-1 ou à J-2 sur le sol américain. Il serait obligé de se rendre le jour du match, le matin du match, sur le sol américain, et de repartir directement après le match en avion du côté de Tijuana. On a pu discuter avec certains membres de la délégation iranienne de foot ces dernières heures, et eux n'ont pas compris ce message. Eux, ils disent qu'ils ont des visas à multiples entrées et qu'ils ont le droit de se rendre à J-1, J-2 du côté de Los Angeles ou de Seattle. Donc on va voir le 14 et 15 juin prochain, c'est-à-dire dans un peu moins d'une semaine, on va voir si l'Iran arrive à J-1 ou J-2, parce que ça sera l'image forte de ce début de compétition lorsque les Iraniens vont mettre un pied sur le sol américain. Tous les médias du monde entier sont ici à Tijuana, des Brésiliens, des Japonais, des Mexicains bien évidemment, pour suivre cette équipe iranienne. Et donc on verra si dans les prochains jours l'Iran arrive à J-1 ou J-2, ou si elle arrive le jour du match, et ça va vraiment poser un problème d'équité par rapport aux autres nations.
Oui, parce que c'est important, les veilles de match, vous l'avez dit, quand tu t'entraînes sur le terrain de match, voilà, ça te permet aussi de prendre un petit peu connaissance du terrain, connaissance un petit peu des circonstances dans lesquelles tu vas évoluer le jour d'après. Donc ouais, ça peut être très très surprenant de voir une grande compétition comme celle-ci avec une équipe qui arrive le jour de match. Ouais, à voir ce que ça va donner, mais c'est sûr que ça ne les met pas dans les meilleures dispositions pour pouvoir commencer cette compétition.
Nico, on rappelle que le premier match de l'Iran est prévu le 16 juin face à la Nouvelle-Zélande. Jusque-là, quel est leur programme? Est-ce que tu sais, ou est-ce que tout est secret? Parce que tu nous as expliqué qu'il y a évidemment un cordon de sécurité XXL, on parle de 300 agents, donc c'est des dispositifs exceptionnels qui sont mis en place.
Non, on arrive quand même à savoir leur programme. Par exemple, ils ont atterri ce matin, là, ils sont un peu en mode récupération. Ils étaient du côté de la piscine de l'hôtel Marriott de Tijuana tout à l'heure pour un peu récupérer tous ensemble tout le groupe iranien. Et puis normalement, dans les prochaines heures, ils vont venir faire une première séance du côté du Stade Caliente, une première séance avec ballon. Et ça va être comme ça tout au long de la semaine. Après, tout dépendra à quel moment ils vont prendre l'avion pour se rendre du côté de Los Angeles pour ce premier match face à la Nouvelle-Zélande, tu l'as dit. Et puis, il y a tout ce contexte autour de cette équipe iranienne, parce que, pour tout vous dire, tous les médias du monde entier se demandent s'ils vont tenir des points presse assez régulièrement, comme c'est le cas de toutes les nations engagées dans cette Coupe du Monde. Est-ce que seulement le point presse officiel de la FIFA fera foi à partir de la semaine prochaine? C'est plutôt de ce côté-là où il y a encore de l'incertitude. Tous les trajets aussi de l'équipe iranienne sont incertains jusqu'au dernier moment pour pas donner d'indication de sécurité. Donc voilà, c'est un peu très particulier de suivre cette équipe iranienne, mais c'est aussi très intéressant parce que ça montre vraiment que la diplomatie autour de cette Coupe du Monde est ultra présente. Et donc voilà, c'est très très intéressant de suivre cette équipe iranienne au quotidien.
Oui, une Coupe du Monde vraiment particulière, on le rappelle, avec cette situation avec l'Iran qui est en guerre. Il y a actuellement notamment des bombardements, et donc les joueurs qui sont présents sur le sol mexicain actuellement pour pouvoir jouer la Coupe du Monde, avec notamment des matchs, comme tu l'as dit, on aura deux à Los Angeles. Tu nous donneras tous les jours des nouvelles de ce qui se passe évidemment à Tijuana. On va continuer de parler de ce qui se passe lors de cette Coupe du Monde, parce qu'on vient d'apprendre qu'il y a eu une fusillade près du camp de base de l'Angleterre. Donc là, ça se passe aux États-Unis par contre.
Oui, c'est à Kansas City, dans le Missouri, qu'une fusillade a éclaté cet après-midi. C'est The Athletic, le média anglais, qui le dévoile et qui parle d'une fusillade vers l'hôtel où l'équipe d'Angleterre séjournera pendant le tournoi. Alors l'équipe d'Angleterre n'était pas présente sur place parce qu'elle était en match amical du côté de la Floride, mais il y a eu quand même 9 adultes qui ont été blessés, qui ont été envoyés vers les hôpitaux du coin, et la police est toujours à la recherche du suspect qui a fait cette fusillade. Donc voilà, c'est aussi un pays qui connaît beaucoup de fusillades, et il va falloir aussi peut-être apprendre à vivre avec pendant cette compétition, cette Coupe du Monde. Il y a aussi un autre élément qui a beaucoup marqué ici du côté du Mexique et des États-Unis, c'est que plusieurs nations ont débarqué du côté des États-Unis et au poste frontière. Plusieurs joueurs, notamment des joueurs irakiens, notamment un des joueurs irakiens emblématiques et le photographe de l'équipe, ont été retenus pendant des heures et des heures par la douane américaine, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays organisateurs de grandes compétitions, parce que d'habitude, c'est toujours organisé pour que les sportifs passent le plus rapidement possible ces contrôles de douane. Et là, ce n'est pas le cas. Et donc, des joueurs irakiens et le photographe qui ont dû se résoudre à répondre aux questions des douaniers et de l'immigration américaine pendant des heures. Et même le photographe a dû rebrousser chemin et ne pourra pas rentrer sur le territoire américain. Ce sont les dernières informations des médias américains. Donc voilà, c'est une Coupe du Monde très particulière sur l'extra-sportif.
C'est le bazar quand même dans ton pays d'adoption, Maxime. Hein.
Ouais, ça n'a pas l'air d'être évident pour les Irakiens, en effet. Après, bon, on connaît la situation aussi par rapport au port d'armes, hein, pour revenir à la fusillade à Kansas, malheureusement. Mais après, ça fait partie de la constitution des Américains. Voilà, le droit de porter une arme. Après, ça, malheureusement, tu vois ce genre de scénario et de scènes que tu ne vois absolument pas en Europe. Voilà, j'ai bon espoir que la sécurité pour les joueurs sera au point et qu'il n'y aura pas de problème sur cette Coupe du Monde. Mais c'est vrai que quand tu vois un petit peu toutes ces informations, ça peut faire peur un peu de venue d'Europe. Mais il faut rester positif. On va avoir le droit à une très belle Coupe du Monde sur le terrain.
Juste pour compléter ce que dit Maxime sur la sécurité des équipes, il y a plusieurs nations, j'ai pu discuter avec quelques entourages de nations. Il y a quelques nations qui sont quand même assez surprises par le fait que, par exemple, lorsqu'elles vont sur des centres d'entraînement, pas toutes sont escortées pour aller au centre d'entraînement. Donc des fois, ça prend des heures pour aller se rendre à l'entraînement. Donc voilà, c'est aussi à prendre en compte dans la préparation.
Quand tu dis des heures, tu veux dire qu'il y a des bouchons?
Enfin, non, une exagération. Voilà, une exagération. Ouais. Mais
surtout quand
c'est
quand
vraiment, ça peut
prendre...
ça peut prendre quand même du temps pour aller à l'entraînement. Et donc d'habitude, lors des grandes compétitions, on met souvent en place des escortes policières.
C'est drôle que tu dises ça.
Et pas toutes
ça,
les nations ont pu avoir ça depuis le début de la compétition.
Parce que moi, j'ai eu la chance de faire la Coupe du Monde des clubs là, l'été dernier, justement, avec le Los Angeles FC. Et moi, j'avais été surpris justement par le nombre de voitures de police qui nous escortaient pour aller au terrain d'entraînement. Alors pourtant, bon, il n'y avait pas...
J'ai envie de croire plutôt des... Maxime.
Mais non, mais ça m'a surpris c'est... d'ailleurs. On en avait rigolé justement avec les joueurs en disant que la FIFA a dépensé un peu trop leur argent pour rien parce que je vois pas quel bus. Enfin, il y avait pas énormément à sécuriser, t'imagines bien, dans le bus de Los Angeles. Bon, si ce n'est, il y avait quand même Olivier Giroud et Hugo Lloris, mais le reste des autres joueurs, ça valait pas énormément d'argent. Mais plus sérieusement.
Il y avait deux monuments quand même dans le bus.
Deux monuments, ouais, ça doit être pour eux alors. C'était sûrement pas pour Chanel en tout cas.
Dernière petite information, c'est que plusieurs nations aussi sont un peu surprises aussi par la qualité des pelouses sur les centres d'entraînement qui n'est pas au rendez-vous. Et donc ça a été remonté du côté de la FIFA pour régler ce problème dans les prochains jours.
Mais on rappelle quand même qu'au niveau de l'organisation, alors c'était une répétition XXL lorsqu'il y a eu le match entre les Français et les Brésiliens lors du rendez-vous du mois de mars, mais c'était quand même très mal organisé avec des heures d'embouteillage.
Exactement.
Et avec des gros soucis.
Après, je veux bien que les fédérations comme ça puissent se plaindre à droite et à gauche. Maintenant, ça va. C'est pas la Coupe du Monde, c'est juste un tournoi international aux États-Unis.
Mais on espère que ça sera arrangé parce que notamment le stade pour aller donc à Boston, le Gillette Stadium, c'est totalement lunaire les accès.
Même à New York, même dans le New Jersey, vous allez voir. Alors ça va quand tu vas du côté de la Floride ou de Kansas, quoi que ce soit, parce que les villes sont quand même un peu moins peuplées et les routes sont plus larges. Dans les grandes métropoles américaines, c'est vrai que pour la sortie de stade, ça risque d'être compliqué. Et d'ailleurs, pour la finale qui se tiendra donc à New York, enfin à New Jersey, il faut savoir que ce stade-là, des fois, tu mets 3 à 4 heures juste pour sortir du stade, tellement que
c'était le cas même à Boston, au Gillette Stadium, donc, au mois de mars, avec des heures d'attente pour un match amical.
Il va s'armer de patience, messieurs, dames.
Nico, tu nous as tout raconté de ton voyage à Tijuana, au plus près de la sélection iranienne.
Le voyage ne fait que commencer.
Magnifique. Écoute, fais attention à toi et découvre ce beau pays qui est le Mexique. On te retrouve évidemment sur
pas
RMC
trop,
et
pas
vous
trop
pouvez
de plage,
retrouver la carte postale, notamment donc sur Tijuana, sur rmc.fr. Nicolas Pelletier qui est au contact de l'équipe iranienne qui est donc basée à Tijuana, alors qu'à la base, il devait être basé du côté de Tucson en Arizona.